écoute sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans I Feel Good, 30 minutes pour profiter des ondes positives de notre invité. 30 minutes pour prendre le temps d'être à l'écoute d'un homme, cette fois-ci acteur, oui, entre autres, acteur, mais aussi de mieux vivre ensemble, par son engagement professionnel, c'est sûr, mais son choix de vie aussi. Il apporte un peu de bien-être et de mieux vivre à tous les âges, et ce soir ça sera à des enfants, puisque ce soir c'est la générale de son grand spectacle. J'ai le grand plaisir d'accueillir un copain à mon frère. Allez, c'est Marc Guéprat.
So good, so good, I got you.
Comme ça, ça permet de faire un petit clin d'œil. Et puis, ça permet de dire que c'est une longue histoire, Marc Guéprat, quand même, sur les terres nancéennes du théâtre.
Oui, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Christophe. Oui, c'est une longue histoire. Bah, voilà, j'étais dans les Vosges. Je suis des Audaciens d'adoption. Mes parents sont partis dans les Vosges. Et quand je suis venu faire mes études d'économie à Nancy, à l'université de Nancy, bah voilà, j'ai trouvé du travail, j'y suis resté, et puis ensuite je suis devenu comédien, et je n'avais aucune idée d'en bouger, tellement on est bien.
Alors là on passe un peu vite sur une jeunesse dans les Vosges, c'était sympa ?
Ah c'était génial,
ouais.
Mais oui, quand tu habites dans une toute petite ville comme Saint-Dié, qui te permet en vélo, en 4 minutes et demie, d'être en forêt, et d'être, quand t'as 15 ans, d'aller faire la bringue avec tout ce qu'il faut pour, en forêt, enfin, promenade, etc., etc., plus le sport, ski pas très loin, non, c'était bien, puis après, bah, faut bouger.
Donc c'est les études qui t'amènent à Nancy, il y avait une possibilité, Strasbourg, Nancy.
Oui, c'était le choix, c'était Strasbourg, Nancy.
Comme tous les Déodaciens, là-haut.
Ouais, voilà. Mais un Déodacien qui réussit, il habite Nancy. Hein.
Ouais, ça, on est bien d'accord.
Non, donc c'était Strasbourg ou Nancy, Strasbourg parce que j'aimais beaucoup, Nancy parce que ma grand-mère qui habitait Nancy, donc bah, c'était Nancy.
Donc tu débarques pour faire des études d'éco, c'était quelque chose qui te plaisait ça, c'était quoi ?
Oui, c'était la seule possibilité que j'avais dans les études que j'ai faites avant, où j'étais plutôt moyen, parfois même moyen inférieur. Et puis je me suis un peu révélé sur les dernières années de première et terminale. Et ce choix-là s'est fait, comme souvent, parce qu'un prof d'éco était plutôt bien avec... nous amener vraiment sur des terrains intellectuels sympas. Et je me suis dit, voilà, je suis pas assez bon en maths, bien que il y avait pas mal de maths hein, quand même, de statistiques, mais enfin, pour le reste, ça allait. Et donc, j'ai passé ma maîtrise d'économie.
Qu'est-ce que tu gardes comme bon souvenir de Sciences Éco
Comme bon souvenir, quelques matières. Bah, anecdotiquement, j'ai eu comment il s'appelle, le créateur du festival, Jacques Lang.
Ah oui.
Ça c'est un bon souvenir. On s'était même interpellé à un moment dans l'amphi. J'étais un peu chahuteur quand même, hein, déjà.
Et donc là, t'étais arrivé à Nancy.
Là, j'étais déjà à Nancy. Et du coup, en première année, ou en deuxième année, je ne sais plus, j'avais vu Jacques Lang qui était droit constitutionnel. Et donc voilà, c'était très sympa. C'était un petit moment sympa. On a un peu discuté. Et puis autrement, non, j'étais un peu besogneux parce que je partais de loin. Je savais que j'avais une capacité de travail qu'il fallait bien entretenir. Sinon, je faiblissais, quoi. Je suis pas un intello pur et dur, hein, avec des compétences qui font que ça va vite. Et donc, on s'était organisé avec des copains un travail collectif, déjà à l'époque. Et celui qui était bon en maths nous faisait bosser, celui qui était bon...
Ah ouais.
Voilà. Et donc, ça permettait de maintenir. Et puis, bah voilà, je m'en suis pas trop mal sorti.
Donc, un collectif qui stimulait pour les apprentissages.
J'ai même fait un truc complètement délirant. J'ai fait ma troisième année d'économie à Auchet, pendant le service militaire, où j'avais quand même un copain, alors je rentrais tous les soirs, hein. Je dormais pas à l'armée, et tous les soirs il m'amenait tous les cours de la journée, on bossait jusqu'à ce que ça soit fait dans la soirée. Et j'ai eu ma troisième année, grâce à lui, quoi.
Bah, comment tu faisais ça ?
Le soir on bossait, puis
on
voilà.
On pouvait être inscrit en fac
et... Oui, on pouvait, en troisième année, il n'y a plus grand monde en troisième année.
C'est ça,
En quatrième année, on a terminé à une petite trentaine, je crois,
d'accord,
en économie.
Donc Sciences Éco,
voilà.
Donc maîtrise, un master, du coup,
maîtrise d'économie.
Maîtrise d'éco, qu'est-ce que tu fais après ça ?
Eh bien, je cherche du boulot et je me rends compte que c'est pas si simple, je me fais un petit coup de chômage quand même.
C'était quelles années ? C'était les années 80 ?
84.
Ouais, on commençait à rentrer un petit peu des
maîtrises. On commençait. Bon, je trouve du travail chez Bruno Petit, un vendeur de maisons individuelles, un peu comme Bouygues aujourd'hui. Et je me rends très vite compte que c'est pas du tout ma tasse de thé. C'est-à-dire que je vois bien qu'en faisant les calculs, on arrive à vendre des maisons à des gens qui ne pourront pas les payer dans 10 ans. Bon, pour des tas de... D'ailleurs, la loi a changé à l'époque. Et puisque il y avait un peu d'arnaque là-dessus, en faisant compter ce que tu touchais à la caisse d'allocation familiale, ça rentrait dans le budget. Puis en fait, bah, ton gosse, quand il a 15-16 ans, il sort du budget. Et là, c'est un peu dur. Bon, donc je quitte. Et tout à fait par hasard, le pôle emploi ayant déjà quelques difficultés à l'époque, demande à une de mes amies, qui avait fait latin grec, d'aller faire un tour à la CEDIC pour voir, parce que la CEDIC, il cherchait une personne pour un boulot bien, bien précis. Et elle sort de là en disant, ils sont complètement fous, ce latin grec, mais j'y connais rien dans ce qu'il m'a demandé. Marc, tu devrais aller voir. Je prends le téléphone, j'appelle, le directeur me reçoit, et le lundi suivant, j'étais embauché, je travaillais. Et donc, je gérais la partie, est-ce que les dirigeants d'entreprise peuvent avoir droit au chômage? Et donc, ils déposaient un dossier, ça passait par moi. Je reste là à faire ce boulot-là pendant un an et demi. C'est bien, donc je suis assez autonome, c'est cool. Et puis, un des responsables du service affiliation, donc des entreprises en Lorraine, s'en va. Et je lui dis au directeur, bah voilà, du coup, c'est moi qui viens. Et puis, bah, il me dit oui. Et puis, je me retrouve directeur responsable du service affiliation des 4 départements. Encaissement des chèques, les adresses, qui, etc. Du boulot administratif. Et puis arrive par les vieilles voitures, ça rejoint Didier, ton frère, par les vieilles voitures, parce que je roulais déjà en vieille voiture à l'époque, en 4 chevaux. Un ami me dit « Ah, tu pourrais nous marier avec la 4 chevaux ?» Bah oui. Et puis bah, j'y vais, c'est dans la Meuse. Et puis il dit bah, « Tiens, t'as qu'à te mettre à table avec tous ceux-là, on reste le soir. Hein. Tu vas te mettre à table avec tous ceux-là et vers 3-4 heures du matin, il y en a un qui me dit « Mais tu ferais pas du théâtre avec nous ?» Bah, je dis « Non, je sais pas ce que c'est. » Je n'avais pas trop de références théâtrales.
Donc là, ça veut dire que jusque-là, tu n'avais pas une inspiration pour le théâtre particulière?
Pas du tout. Je plaisante toujours quand on dit, beaucoup de comédiens disent le théâtre, c'est la vie. Non, c'est une connerie. Le théâtre, la vie, c'est la vie. Le théâtre, c'est autre chose. Et je comprends bien le public qui a des fois peur d'aller quelque part, à l'opéra, au musée, au théâtre, puisque moi, mes références culturelles, jusqu'à 17 ans, je n'ai pas vu de théâtre à l'école. Alors qu'aujourd'hui, je crée des spectacles jeunes publics et je crois qu'on doit être à peu près à 600 ou 700 000 enfants qui ont vu nos spectacles sur les 30 dernières années. J'ai pas vu de spectacles. Mes références, c'est
ce qu'on voit à la télé.
Mes parents sont de l'arménager, on a la télé couleur chez nous. Ouais. Donc je regarde un peu de théâtre au théâtre ce soir. Ouais. Mais bon, c'est tout. Ça m'inspire pas plus que ça. J'aime bien 2-3 trucs de sport et des émissions rigolotes. Et puis, j'en suis ni. Pour ceux de l'époque, c'est-à-dire des cascadeurs, le gars qui vient en moto, qui traverse un truc de feu, le gars qui roule sur deux roues, et le cirque. Mes parents m'emmenaient tout le temps au cirque, quand le cirque arrivait dans les Vosges. Un peu comme d'autres le font ici. C'est tout. C'est tout ce que j'ai comme référence artistique de l'époque.
Bagage maigre, on va dire.
Très bagage maigre. Je ne vais pas au musée. Enfin, il n'y a rien, quoi. Je fais du sport. Ce banquier avec la 4 chevaux, on se retrouve à un paquet. Et puis ils disent, viens dans la compagnie, et j'y vais pour voir comment c'est. Puis on fait un premier spectacle, ça me plaît bien. Voilà, c'est des copains de copains, ça roule. Et puis on en fait un deuxième qui marche plutôt bien, compagnie amateur, hein, mais qui marche bien. Et on fait une réunion, et je dis, attendez les gars, les filles, si c'est pour travailler autant que ce qu'on vient de faire, on bossait vraiment beaucoup.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ça se terminait vers 2h du matin, c'était les week-ends, c'était les vacances, c'était vraiment, on préparait le truc.
En plus du boulot.
Ouais, j'avais appris à bétonner pour que ça ne transparaisse pas dans le boulot. Et donc voilà, pendant un moment, j'ai eu presque 2 métiers. Et puis à un moment donné, on a dit, attendez, si on doit faire ça, il faut en faire notre métier. Et là, il y a eu un moment blanc dans le groupe. Et puis donc le groupe s'est scindé entre ceux qui disaient pourquoi pas, on va mettre un certain temps pour y arriver, et les autres qui ont dit c'est totalement débile, je peux pas, j'ai un métier. Et puis donc le groupe s'est scindé, et puis on a mis 4-5 ans. Donc je jouais gratuitement puisque j'étais amateur, je travaillais. Il y avait 2 personnes qui étaient salariées de la compagnie, puis on progressait comme ça, on répétait, puis un matin on s'est tous réunis, on a dit 1er septembre 90, ceux qui bossent encore démissionnent et on y va.
Ça, c'est la première date importante.
Voilà, ça, c'était vraiment important.
La compagnie s'appelait comment ?
La compagnie s'appelle toujours Théâtre en Kit.
Donc c'est le tech.
C'est le kit.
C'est...
Ouais.
C'est donc une histoire de copains qui se connaissaient pas plus que ça, en fait.
Pas plus que ça, ah, et c'était vraiment, après je dirais même, ce sont des gens qui ont été liés par le théâtre. Ce ne sont pas des amis qui ont fait un truc ensemble, et que non, c'est le théâtre qui nous a liés. Alors bien évidemment, des fois on me pose cette question-là, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune? Bon, j'en sais trop rien, mais ce que je dirais, oui, vas-y, fais une école de théâtre. Nous, on avait fait des études ailleurs, par ailleurs, et bien qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on est un peu faible, entre guillemets, et bien on a bossé et on a fait des tas de stages.
Ah, c'est ça.
Vous avez bossé, on a fait des stages sur la voix, on a fait des stages. Alors, il y avait je pense qu'il y avait déjà un petit bagage personnel chacun, mais qu'on a vraiment complété en faisant des formations.
Mais c'est ton côté assez Sciences Éco quand même qu'on retrouve là. C'est assez pragmatique. Tu nous racontes le truc. C'est, pour un homme de théâtre, on pourrait s'attendre à une mise en scène. Quoi. Enfin, voilà.
Non, c'est assez carré. Quoi.
Ouais.
Ouais. Oui, donc, et je crois même que pour le coup, c'est vrai qu'on n'avait pas fait d'études. Donc, entre guillemets, on a rattrapé, j'espère, le retard qu'on avait. Voilà. Et par ailleurs, par contre, ce côté administratif et compétences objectives d'administration nous a permis aussi de tenir la boutique, de savoir faire les comptes.
Alors, tenir la boutique, c'est des hauts et des bas quand on part de rien.
On est parti de rien, oui. Donc, la compagnie était amateur pendant quelques années, puis professionnelle. C'est-à-dire que tous les gens qui travaillaient dans la compagnie étaient payés et ne faisaient que ça. Hein, ça aussi, c'est une question. Alors donc, vous faites quoi à côté? Comédien. C'est-à-dire, on va au théâtre en kit vers 9h. Et puis on travaille, et puis on sort le soir vers 17, 18. Et puis quand on répète, ça explose. Ça peut être le week-end, ça peut, peu importe, c'est pas l'usine. Mais c'est pas non plus des heures... c'est quand il faut, comme il faut. Et en fonction de ça, on y va. Donc, y a eu des hauts débats parce qu'on s'est trouvé dans des situations financières. On a fait des choix, puis ça c'était un peu risqué. Et puis on s'est retrouvé avec des déficits qu'on a comblés. Qu'on a eu la chance de pouvoir combler dans deux cas importants. On en a parlé autour de nous et ce n'était pas une subvention, c'était vraiment en échange d'un travail. Hein, j'ai refait un appartement à Paris, on a fait des guirlandes de Noël pour une entreprise. Ben bon, voilà, et ça, on a été payé, qu'on a mis dans la caisse et qui a permis au Théâtre Tranquille de continuer.
Donc ça, c'est des deux coups durs. On suit une petite pause musicale, une pause un peu à ton image qui donne de la patate et de l'énergie. Et puis, on revient justement sur la belle vie d'une compagnie.
La 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 la
Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Maria Pratt, mon invité, Lerita Mitsuko, c'est comme ça, c'était votre dose d'énergie.
Oui, c'est, ça pulse. Hein. Et donc, quand on allait en représentation et pour se préparer avant, le groupe se mettait, Lerita, et s'échauffait en musique avant de rentrer sur scène.
Le groupe, c'est combien de personnes alors ?
Alors, on était jusqu'à 8-9. Ouais. C'était déjà un bon groupe de théâtre. Aujourd'hui, on est 3 au niveau du noyau dur et une personne qui vient nous aider à l'administratif.
Alors, des opportunités, le théâtre en qui t'en a eu, vous avez fait des choix, tu le racontes dès le départ de la mise en route de cette aventure-là, mais tout au long de ces 30 ans d'existence, vous avez fait des choix sans cesse.
Oui, on est déjà des choix artistiques. Donc, savoir quel serait le prochain spectacle que nous ferions. Donc, on est avancé pas à pas, puisqu'on n'allait pas prévoir les 6 prochains spectacles, on ne sait jamais où on va. Donc, c'est assez étonnant de gérer, en fait, cette idée que ce n'est pas obligatoirement sur la durée, que ce n'est pas certain que ça durera, et qu'à chaque fois, on remet tout sur le tapis, si je puis dire, sur la table, au niveau du travail et de est-ce que ça fonctionnera ou pas. Ça, on n'en savait rien, donc on a avancé. Et puis, on a fait, individuellement, on a fait des choix. On a bien voulu, mais par choix, rester à Nancy et pas partir dans d'autres villes comme Paris.
Alors ça, vous avez des opportunités, des possibilités.
Alors, c'était plus individuel, ça, c'est effectivement des rencontres qui font, vas-y, viens. Non, je suis dans une compagnie qui va bien et j'ai envie d'y travailler et d'avancer. D'abord, ça nous convenait bien, puisqu'on avait à la fois la parole... La capacité à inventer des choses, c'est assez incroyable, quoi. Donc, on a fait cette option-là. Et une autre fois, on m'a proposé un travail théâtre assez important et où j'ai dit non, je suis dans la compagnie théâtre en qui, t'aurais bien. Et la réponse, que c'est un institutionnel, la réponse a été, Marc, non, hors de l'institution, point de salut. Au début, je me suis dit, il a tout à fait raison, aussi bien le montant des cachets, que le type de travail, que les salles où on va jouer, les villes où on peut passer. Puis finalement, au bout du compte, j'ai pas eu tort non plus.
Tu donnes pas raison, tu donnes pas tort.
C'est juste des choix.
C'est un choix.
On peut pas dire qu'il faut démissionner de la CEDIC.
Parce que vous avez fait de l'Avignon, vous avez fait du Paris,
On a été 14 fois à Avignon. Ouais. Moi, 16, j'en suis à 16 ou 17. Même une fois dans le Huyn, avec Charles Torgeman, à un moment donné, sur le CDN, Centre Dramatique de Nancy, et puis le reste avec la compagnie Théâtre en Quitte, et puis dernièrement avec la compagnie G2L, puisque j'ai mis un spectacle qui s'appelle Avenir de Roi, de Claude Bourgeix en scène, et qui s'est joué au dernier Avignon.
Alors vous vivez comment et de quoi aujourd'hui, en étant professionnel et en province ?
Alors, on vit, je dirais, plutôt bien, puisque le Théâtre en Quitte a la chance incroyable d'être en résidence dans un théâtre à Tomblaine. C'est le pilier. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être certainement fait d'autres choses, on aurait existé autrement. Mais effectivement, au même titre qu'on met des piliers en chaîne pour que les moules puissent grandir, ouais. Le pilier en chaîne, c'est effectivement Hervé Ferron qui nous l'a mis en place en nous prêtant son théâtre, mais de manière permanente. Donc on appelle ça résidence, ce qui nous a permis de faire des choix
avant l'heure en plus.
Complètement avant l'heure. On y est depuis, je dis toujours 1000 ans, parce que je ne sais même plus la date tellement c'est ancré dans l'histoire du théâtre en Quitte. Et effectivement, ça nous a permis aussi de faire des choix en se disant, on peut faire ça parce qu'on est là. Taille du plateau, possibilité d'essayer les décors avant. C'est un luxe. Alors, luxe que, bien évidemment, on a absolument souhaité faire partager aux autres compagnies. Parce que je me suis rendu compte qu'on avait... nous aussi, au début, on cherchait des salles. Et on s'est dit non, on ne va pas bloquer la salle en disant non. Alors, je crois qu'elle est prêtée à des compagnies professionnelles plus de 60 jours par an quand même. On laisse de la place. Ça me paraissait important d'avoir un regard. Mais ça, c'est mon côté non théâtreux.
Ouais.
Et donc, ces choix ont fait. Et puis, on a avancé, on a eu de la chance. Je dirais qu'on a peu de spectacles où on a été à la ramasse, où on s'est planté. À Avignon, on a fait 14 fois Avignon, 7 qui ont très très bien marché, 7 autres qui ont été à la moyenne, Et dans les 7 autres, 2 où on est rentré avec un peu des déficits, où ça n'a pas fonctionné. On ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas pourquoi.
Non, pas, enfin, on analyse et on a posteriori. On pense que l'affiche de l'époque et le titre n'ont pas aidé au public à venir, alors que d'habitude, on finissait par être une petite compagnie connue et reconnue dans le secteur, au niveau du jeune public, et on faisait un petit carton à Avignon. On a été avec du spectacle adulte, hein, mais ça, c'est complètement différent. Avec du jeune public, mais là, il y en a un ou deux. Un, on sait exactement pourquoi. Il a fait 40 degrés avant l'heure, et on emmène passer les gosses à 11h du matin dans une cour à Avignon quand il fait 11 degrés, qui fait 40 degrés. Donc on a perdu la moitié du public. La moitié du public, c'est 6000 euros de déficit. Bon, comme tu dois payer la salle, dois payer les comédiens, tu peux pas les trouver. Et donc quand tu rentres, tu les as en moins.
Le choix, le jeune public, c'est un choix...
C'est un choix de départ avec... on a fait, alors c'est assez étonnant puisqu'on a fait, je crois que ça doit être le 14e spectacle jeune public, mais on a fait plus de spectacles adultes que de jeune public.
Ah bon ?
Oui, mais on est moins connu en adulte parce que les spectacles adultes, en France, quand t'es pas une compagnie... c'est plus dur à tourner. Voilà, c'est plus on l'a fait, on a tourné, on a vendu, mais c'est plus dur. Et donc on nous identifie souvent comme jeune public, mais le dernier spectacle qui a été mangé par le Covid...
Ouais.
Mais il s'appelle Dérapage, créé par mise en scène Christian Magnani, des compagnies d'écrire de nuit. Il est venu faire la mise en scène de notre spectacle, qu'on a coécrit avec lui. Et on l'a voilà, il y a eu le Covid. Il était prêt à acheter, il est à la poubelle. Parce qu'il y a 2 ans et demi de retard dans toutes les programmations. Donc ceux qui l'avaient pris ont fait Et puis voilà, c'est mort.
Donc, c'est mort, ça va
Oui, c'est mort.
Ça viendra plus.
Non, en plus, on était un gros groupe. Il y avait une grosse install, c'est des spectacles un peu entiers, et c'est pas facile à tourner, c'est un peu plus cher, ça c'est mort.
Plus la période là.
On n'est plus là. Non, mais voilà, c'est un spectacle adulte.
D'accord. Deuxième date importante quand même, c'est pour ça que je me glissais gentiment vers cet amour de spectacle pour enfants, c'est avril 2006... C'est le rendez-vous...
Avril 2006, création du rendez-vous des moutards, le festival le rendez-vous des moutards. On est à Tomblaine, en 2005, le théâtre est créé. Quand je dis qu'il est créé, c'est-à-dire qu'il est... C'est un ancien FJEP qui est restauré par la ville de Tomblaine et qui dit, théâtre tranquille, vous avez les clés. Et nous, on se dit, comme beaucoup de compagnies, on ne crée pas tous les 2 minutes, on crée quand même tous les ans et demi, 2 ans. Il faut déjà les créer, puis après, les tourner, les spectacles. Et puis après, on recrée d'autres. Et là, il faut faire un truc.
Qu'on s'explique bien. Créer, tourner, ça veut dire écrire.
Il faut écrire, il faut répéter, il faut avoir l'idée. Écrire, répéter, et après, il faut le jouer. Et tourner, c'est le vendre, le jouer dans les villes, à droite et à gauche.
Donc les villes, c'est qui ? C'est les communes directement ?
C'est les communes directement qui ont souvent un service culturel, ou les communes il y a quelqu'un qui s'occupe de la culture.
Okay.
Alors on joue plutôt, nous, on est une compagnie, à jouer plutôt dans les villes de 6 000 à 25 000, 30 000 habitants.
D'accord.
Voilà.
Ça, c'est votre...
C'est notre segment.
Cible, pour rester dans les...
Voilà. Alors, en 2006, on crée cette femme. Ouais. On se dit... Alors, ça fait longtemps qu'on fait du spectacle jeune public, ça fait longtemps qu'on est à Tomblaine, et Tomblaine nous prêtait une salle, et on proposait nos spectacles jeune public aux écoles du département. Et ça marchait, ça marche bien. Les écoles viennent en bus, voient nos spectacles et repartent. Et là, on se dit non... Maintenant, on a un théâtre. Nous, on a quelques spectacles, mais on connaît plein de compagnies professionnelles qui ont des super spectacles. On va les contacter et on va voir si on peut mettre une première opération. On y va. On voit comment ça marche. On joue 2 fois dans la journée. On étudie les paiements pour qu'est-ce qu'on va donner aux compagnies pour que ça soit bien. Et puis, le premier rendez-vous des moutards, on le fait avec quelques copains à qui on dit, on est d'accord, c'est gratos, on essaye. Personne n'est payé. Mais je dis, ça c'est mon côté écho, il n'y aura pas de deuxième. Soit ça suit.
On essaye pour voir si ça marche.
Mais on ne fait pas pendant 10 ans, t'as qu'à venir, t'auras du monde. Tu verras, il y a des acheteurs, ça m'énerve. Tout le monde essaye de faire ça, puis, c'est des conneries. À part quelques endroits, c'est des conneries. Puis ça permet aussi d'amener des compagnies qui se disent, peut-être c'est bien quand même. Bon, non. Donc on n'a jamais dit ça, nous. Par contre, les subventionneurs ont suivi. On a équilibré. Qui c'est qui fait la bouffe ? C'est nous, le théâtre en kit. Qui c'est qui loge ? C'est nous. Donc tout ça, on a réduit les coûts. Si ce n'est pas une compagnie, ça ne peut pas être fait. C'est un festival qui coûterait très cher. Et les compagnies, deuxième année, ont été payées. Donc on achète les spectacles des compagnies. moins cher qu'un vrai programmateur ailleurs. Mais ils sont payés. Alors, ça serait quoi ? Ils sont payés ? Ben, c'est simple, le prix. C'est le prix qu'on a, nous, Théâtre en Kit, on accepterait si quelqu'un de Metz nous disait « Salut Théâtre en Kit, on est en train de monter un festival, pas beaucoup de sous, je te payerai ça, tu viens ?» Et ben on a dit « Voilà, ça sera le prix. »
Et donc le rendez-vous des moutards, c'est
17e année.
17e année.
Waouh, c'est génial. Alors, affiche créée depuis toujours par Claire Arthur, qui est un peintre, ami, qui a toujours fait notre affiche. Et puis des compagnies professionnelles d'un petit peu partout, principalement Grand Est quand même, pour des tas de raisons financières, et quelques amis qui peuvent venir de loin et qui savent qu'on les arnaque pas, même si on paye pas complètement.
D'accord. Voilà. C'est le rendez-vous, c'est la période de l'année.
Février-mars.
Donc ça approche.
Ça approche, voilà. Le tout est prêt. C'est même sur notre site.
Ça peut même être un cadeau de Noël.
Ah bien sûr, on peut bien sûr offrir ça. Il y a eu, alors c'est pas beaucoup, mais quelques-uns, quand c'est les anniversaires, qui, au lieu d'acheter des tas de bonbons, des tas de trucs, achètent un billet pour tout le monde, et il y a 15 goals qui déboulent. Voilà, je trouve que c'est pas mal.
Troisième date importante, il nous reste une minute pour en parler. Ouais. C'est aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est un coup de bol terrible. Ouais. C'est la générale de qui c'est celui-là, du dernier spectacle, bonjour, du dernier spectacle qu'on est en train de créer. Spectacle jeune public qui a une petite particularité. Il est muet, est totalement musical, et masqué. Et on travaille sur le corps, et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. On aime bien faire des trucs qu'on ne sait pas faire vraiment. C'était et bien. On y va. Le jeu masqué, je n'ai pas de formation sur le jeu masqué. Donc on y va, on a bossé bien évidemment, on a travaillé avec Corinne Bornemann. Ouah, ça fait un an et demi qu'on est sur l'idée, qu'on a les décors, sur comment ça peut marcher, des essais. Voilà.
Combien de représentations ?
Eh bien là, on fait la générale ce soir, il y a 6 écoles qui viennent, donc 6 représentations dans les jours qui viennent. Et puis, il est vendu à Belfort. Il va se jouer encore à Metz et encore 2-3 endroits que j'oublie. Voilà, il démarre sa petite vie tranquille.
Un gros projet que tu as sur le cœur, Marc ?
Un gros projet que j'ai sur le cœur ? Bah, j'aimerais bien... si je fais court, j'ai une camionnette, une bétaillère de 1964 que je viens de transformer en scène de théâtre et petit bar, qui d'ailleurs va servir à l'association La Cagette à l'autre canal le 16 décembre. Et j'aimerais bien avoir la capacité d'écrire un spectacle et tourner, mais le personnage principal, c'est la camionnette.
Merci Marc.
Ciao.